l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
Bonjour à tous, aujourd'hui Grand Sud FM s'intéresse à une épice réputée pour être la plus chère au monde, le safran. Et pour nous en parler, on va dans les Pyrénées-Orientales pour être avec Laurent Dieval, safranier, à la tête du safran des Aspres dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Laurent.
Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs.
Safranier, c'est une activité qui est peu courante dans la région. Alors pour commencer, qu'est-ce qui fait la particularité de cette épice qu'est le safran et du coup sa rareté ?
Alors, il y en a plusieurs, si vous voulez une réponse un peu complète. Premièrement, c'est une plante, malgré sa rusticité et le fait qu'elle soit assez coriace, il lui faut des règles un peu très particulières pour fleurir dignement. Voilà, un peu d'altitude, des terres pauvres, sol argilo-calcaire, c'est le meilleur qu'on puisse lui donner, mais il se contente de beaucoup d'autres choses. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui fait que c'est une production qui, si on veut la faire entre guillemets traditionnellement et respectueusement, qui ne peut être que manuelle. Donc c'est long, c'est très chronophage, c'est fleur par fleur. Il y a des contraintes au niveau de la récolte aussi qui sont non négligeables. C'est que des fleurs du jour, donc là aussi il faut y être. Et le fait aussi, pourquoi un peu rare entre guillemets, voilà, déjà, il va falloir à peu près en moyenne 250 000 fleurs pour produire un seul kilo. Et c'est que des fleurs du jour, comme je disais, ramassées fermées le matin et épluchées une par une et séchées dans la journée. Voilà, il y a des contraintes de récolte assez énormes si vous voulez sortir un produit digne de ce nom. Et dernier point, c'est pas parce que soi-disant on le vend cher au gramme qu'on gagne beaucoup d'argent par derrière. Si vous sortez un SMIC de votre activité, vous êtes bien content.
Alors du coup, Laurent Dieval, vos champs se situent au pied du Canigou, à Calmeil, dans les Pyrénées-Orientales. Vous nous avez parlé donc dans les points du sol qui sont appréciés donc par le safran. Le climat qui convient à cette culture, quel est-il ?
Il faut des étés marqués, des sols pauvres, pas trop d'eau, ou au moins qu'elle puisse partir quand il y en a. Alors ben, c'est sûr que là, depuis 4 ans, on en a surtout pas trop, nous. De l'eau, dans les Aspres, on souffre un peu. Hein. Ouais, enfin, pas que nous, hein. Je veux dire, il n'y a pas que les Aspres qui souffrent. Hein. Là n'est pas mon propos. Mais voilà, il faut des terres assez pauvres, des terres à vignes et de l'altitude, des versants bien exposés. Chaque safranière est un peu unique. Et dernier point, je me permets juste une précision. Oui. Le safran en tant que plante n'existe pas. C'est l'épice qu'on va tirer à partir d'un certain crocus, à partir de son pistil, qui est la seule partie comestible pour nous humains. Le reste de la plante est toxique. Et donc c'est un crocus sativus, pour son petit nom, qui est la race par excellence des crocus à safran. Voilà. Qui sera spécifiquement à floraison automnale.
Et quelle superficie avez-vous, Laurent ?
Alors, il y a à peu près, il y a 3 safranières pour un total à peu près de 30 arts à la louche plantée. Ça peut paraître peu pour de l'agricole, pour des éleveurs, par exemple, hein, qui ont des vaches ou des choses comme ça. Là, c'est plus extensif, comme agriculture. Nous, c'est les mouchoirs de poche, mais on en met beaucoup. Et donc, 2500 mètres carrés, 3000 mètres carrés, déjà, pour, un petit couple de safraniers à gérer au quotidien de la récolte, c'est amplement suffisant.
Alors, actuellement, vous êtes en période de cueillette. Concrètement, comment se passent les différentes étapes de la cueillette des fleurs jusqu'à la commercialisation?
Pour la récolte, donc, faut savoir que, les crocus à safran sont des plantes à végétation inversée, je m'explique. Ils dorment en été et vivent en hiver, fleurissent en automne, finissent leur végétation au printemps avant de s'endormir et on recommence. Chaque année, la plante va pousser et donner naissance à des nouvelles plantes, en fait. Elles se dédoublent. Concrètement, la récolte va s'étaler de la mi-octobre à la mi-novembre. Les bulbes se réveillent depuis la mi-août. Là, ils font leur affaire et concrètement, vous n'avez rien de visuel avant la mi-octobre à la louche. À partir de là, chaque nuit, des fleurs vont naître des rejets de l'année, si je puis dire. Mais tout se passe sous le sol, on voit rien, hein, on voit que les fleurs qui dépassent. Donc chaque nuit, les fleurs naissent, arrive le petit première lueur du jour qui les font gonfler. Les premiers rayons du soleil, ça fait gonfler encore un peu, et dès que le soleil va taper dessus, il y a tout qui s'ouvre. Et nous, on a deux problèmes. C'est que on veut surtout pas que le futur safran s'oxyde ni ne s'abîme à cause de l'oxygène et de la lumière. Ainsi, on va commencer très tôt le matin, voir la lampe spéléo des fois. Hein, et donc, on va essayer de ramasser un maximum de fleurs fermées. Ou peu après leur ouverture, et voilà, et le plus possible, si vous voulez. Et de là, les premiers lots vont être envoyés à la maison pour être épluchés une par une à la foulée. C'est une course contre la montre qu'on joue tous les jours. Vite, vite, on veut ramasser. Vite, vite, il faut éplucher. Vite, vite, il faut sécher. Et vite, vite, il faut conditionner, trier, enlever tout ce qui est déchets végétaux avant de finaliser la récolte du jour. Petit problème en plus, c'est que, ou contrainte entre guillemets, c'est que tous les matins, on ne sait pas combien de fleurs on va trouver dans le champ. Mmh. C'est la surprise de la bonne dame en nature. D'accord. Donc pour organiser les petites mains et le travail, vous voyez, c'est un peu au pied levé. Et tout doit rentrer dans la même 24 heures. Le jour où ta fleur elle naît, si tu en as 500 ou 10 000 ou 20 000, il va falloir faire des choix. Et que tout doit rentrer dans la journée. Parce que si tu passes ta journée à ramasser toutes les fleurs qui se présentent à toi, tu n'auras pas le temps de les éplucher. Parce qu'une heure de ramassage vaut à peu près 4-5 heures d'épluchage.
Ah oui, quand même.
L'éplucher, c'est juste, quand je dis éplucher, c'est un abus de langage. On dit émonder, c'est castrer la fleur, c'est prélever le pistil, ou prélever un organe reproducteur, peu importe.
Et du côté de la commercialisation, vous l'effectuez plutôt dans le département catalan, c'est ça ?
J'ai préféré opter pour une carte de vente, de production et de vente locale, que ça soit logique jusqu'au bout. C'est ballot de faire une production locale et de l'exporter au bord du monde, même si ça peut être très intéressant au niveau de la notoriété sur des très grands restaurants dans le monde entier, hein, c'est pas le problème, hein, puisque c'est un peu avec ces gens-là qu'on travaille. Donc globalement, c'est que de la vente directe, particulier comme professionnel. Effectivement, spécifiquement dans les PO, on peut nous trouver sur pas mal de marchés, de foires, de marchés de producteurs, foires bio, fêtes de village, etc. Le plus simple plat, c'est de nous suivre un peu sur Facebook. On affiche au fur et à mesure les dates qui peuvent varier d'une année à l'autre.
Une autre question qui est notamment d'actualité, c'est le département des Pyrénées-Orientales qui est fortement touché par la sécheresse.
Eh oui.
Et du coup, comment s'annonce cette récolte des fleurs de safran pour vous, Laurent Dieval ?
Alors, pour nous, il y a quand même quelques incidences, même si, comme je disais, c'est une plante assez rustique qui peut encaisser, mais bon, elle a ses limites, comme toutes. La sécheresse a plusieurs impacts. Premièrement, elle nous retarde un peu l'arrivée programmée des premières fleurs. La sécheresse fait que aussi les bulbes manquent d'eau à des phases critiques et ou nécessaires de leur développement et de leur culture. Et donc, ça donne des bulbes qui baissent en calibre. Et des bulbes qui baissent en calibre, potentiellement, ça fait moins de fleurs. Alors, pour nous, l'un dans l'autre, il y a tellement de plants cultivés que bon, ça se lisse un petit peu, mais bon, jusqu'où ça va pouvoir se lisser naturellement, ça c'est une autre question. La sécheresse aussi a un impact sur beaucoup de pollinisateurs, qu'on voit beaucoup moins d'abeilles ou de choses comme ça, c'est très flagrant. Sur la qualité du sol aussi, il n'y a pas d'eau, donc la matière organique ne peut pas se dégrader, etc. etc. Donc vous voyez, c'est un jeu de domino là où on touche, qui est important, mais c'est une culture qui peut encaisser comparé à des arboriculteurs ou des vignes qui ont les plantes qui claquent quoi, sur pied de soif. Bon, là, c'est dramatique. Quoi.
Je voulais terminer cette interview, Laurent Dieval. Vous faites des visites de votre safranière.
Tout à fait.
Comment ça se passe, hein ?
Alors, concrètement, si vous voulez, pendant cette fameuse mois de récolte ou de floraison naturelle des crocus, donc, de la mi-octobre à la mi-novembre, nous profitons de cette occasion un peu unique et spectaculaire pour avoir un bon support pédagogique, effectivement, pour faire visiter et ouvrir les portes des safranières à tous les curieux qui veulent, professionnels, particuliers, des randonneurs, des photographes, des personnes à la retraite, ou pas, hein, ou des actifs, peu importe. Et donc, c'est une visite un peu en odorament, on touche, on goûte, on sent, c'est assez sympa. Les visites se font le matin, ne sont que sur rendez-vous. Il faut nous appeler sur le portable pour réserver éventuellement un jour de visite. Nous, on y est tous les jours, donc sous réserve des conditions météo, ça peut être a priori le jour qui va bien aux personnes.
Eh bien, merci Laurent Dieval d'avoir répondu à mes questions sur Grand Sud FM.
Merci beaucoup à vous, Benjamin, de ce petit coup de flash ou de lumière sur cette production un peu atypique.
Voilà, je rappelle aux auditeurs de Grand Sud FM que vous êtes safrani à la tête du Safran des Aspres dans les Pyrénées-Orientales. Merci beaucoup Laurent.
Tout à fait, merci beaucoup à vous.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.